Voilà, nous allons proposer notre chronique, la Bénévolentia. Aujourd'hui, la violence appelle la violence. La police nationale congolaise a utilisé la force pour mater la révolte des adeptes de BDK. La réplique à cette violence a occasionné des morts et blessures chez les manifestants. Nous allons suivre ce reportage que nous propose Dani Kindalvita.
Un groupe était usé de la force pour contraindre un autre à se soumettre à l'ordre établi. L'usage de la force laisse toujours derrière lui des casques et des conséquences déplorables. La force ne peut ramener une paix durable.
Partout où la force a été utilisée, je ne sais pas s'il y a réellement une force, parce que quand il y a des armes qui crépitent quelque part, peut-être amener le dialogue, c'est là où ça peut s'arranger. Mais quand il faut arrêter le terrorisme, pas le terrorisme, ou alors arrêter ce qu'on veut arrêter ici au Congo par la même procédure, je crois que c'est pratiquement difficile. Donc la violence ne peut pas être réglée par la violence. Donc,
la force plutôt ne peut jamais ramener une paix durable dans la mesure où c'est un rapport de force. Les partis en présence doivent tenir compte des éléments, des paramètres qui font qu'une partie aujourd'hui peut être forte et demain s'affaiblir par le temps et par les circonstances. Et cela pourrait permettre à l'autre parti qui a été vaincu, qui a été affaibli par la confrontation, par les contacts, puisse revenir à la surface, s'armer davantage et renverser la vapeur. Donc, à mon avis, je crois que pour amener une paix durable, nous devons passer par la négociation, par le débat, par le consensus, de manière à ce qu'on trouve un modus vivendi entre les parties et qu'aucune d'elles ne se trouvera vaincue.
C'est la situation que nous avons observée dans le Bas-Congo avec le boom du Bas-Congo.
Écoutez, c'est les politiciens du Bas-Congo que l'on n'arrive pas à comprendre, parce que pas tellement les politiciens du Bas-Congo, c'est les politiciens, c'est l'Africain d'abord en soi, et puis les Congolais en particulier, et puis finalement les Mukongo encore, s'il faut parler de lui, parce que l'homme Mukongo n'aime pas tellement sa province, c'est comme l'homme congolais n'aime pas son pays. Nous sommes ici, nous sommes la seule province où, du fond au fond, on ne parle que le même langage. Donc, on s'écoute, on s'entend, on se comprend. Nous avons ce privilège-là. Si on pouvait à s'entendre, comme le disent nos anciens.
Le dialogue n'est pas un signe de faiblesse pour un groupe devant un autre.
Mais non, mais le dialogue, c'est le dialogue qui privilégie tout. Parce que, écoutez, l'arbre à palabre existe chez nous les Bantous. Donc tous les problèmes se règlent sous l'arbre à palabre. En dehors du dialogue, en tout cas, il n'y a pas de solution. Je ne vois pas une autre solution par rapport au dialogue.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution sans recourir à la violence?
Mais rapidement organiser un forum, quelle que soit la terminologie qu'on pourra utiliser, le forum, il faut un rassemblement, il faut que les gens se mettent autour d'une table, sous l'arbre à palabre, et traiter, négocier tous les problèmes. Que chacun pose son problème, qu'on trouve les solutions. Il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la violence, mais tout se traite ici par notre façon de voir. Parce que nous avons des proverbes, nous avons des adages qui négocient, qui trouvent facilement des solutions aux problèmes posés en tout moment et en toute circonstance ici dans notre province.
Si nous pouvons apprendre à trouver des solutions à nos problèmes sans recourir à la violence, nous avons la chance d'avoir une société stable.
Voilà, merci Dani Kindalvita de nous avoir présenté ce reportage. Nous avons déjà dans ce studio professeur Okomba, docteur en communication. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi.
Merci.
Voilà, alors première question, pourquoi les adeptes de BDK étaient-ils munis de pierres, de bêches et de pioches?
Je crois que c'est tout simplement parce que le dialogue n'avait pas été organisé. Nous venons de suivre un reportage qui met l'accent sur la nécessité d'organiser des forums, des négociations, des rencontres, des échanges, de la communication. Ce reportage met l'accent sur la solution à laquelle il faut recourir dans ce genre de situation. Donc la violence n'est vraiment pas nécessaire. On peut recourir aux armes du dialogue et des négociations pour trouver des solutions. Donc si ces adeptes ont cru nécessaire de se munir des pierres, des bêches et des pioches, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de rencontres, il n'y a pas eu de forums. Alors, pour se faire entendre, ils ont cru bon de se munir de ces outils-là pour que le gouvernement et les autorités locales prennent en considération leurs revendications.
Alors sur le plan émotionnel, comment expliquer ce comportement des adeptes de BDK?
Je pense que le comportement des adeptes de BDK avait pour principale cause la crainte de perdre du travail, de perdre un emploi, de se retrouver sans source de revenus pour subvenir à leurs besoins et aux besoins des membres de leur famille. C'est ça la principale cause, si vous voulez, de ce genre de réaction.
Oui, mais là, carrément, on a eu comme l'impression qu'ils cherchaient un bouc émissaire, comme vous dites, quelqu'un qui vient leur ravir leur emploi, leurs avantages sociaux.
Oui, c'est sûr. Vous savez qu'à l'origine de ce genre de conflits de groupe, il y a toujours ce genre de problèmes. Conflits autour de l'emploi, conflits autour de la terre, conflits autour d'un certain nombre d'avantages. Et partout, on trouve ce genre de situation. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir négocier, de pouvoir dialoguer pour découvrir les causes des frustrations des uns et des autres et afin de bâtir des solutions durables.
Alors, comment expliquez-vous, professeur, que ces cycles de violence au sein de la secte BDK, quelles leçons tirer de cette situation?
Vous savez, lorsqu'il éclate un conflit entre deux groupes, chaque groupe estime que c'est la solution qu'il préconise qui doit l'emporter. Alors, pour imposer sa solution, le groupe qui estime être le plus fort, qui a un peu plus de moyens, fait usage de la violence, tout simplement. Et ce faisant, en faisant usage de la violence, il provoque des dégâts dans le groupe qui est considéré en ce moment-là comme faible. Dégâts sous forme de destruction des biens, viol, vol, assassinat, ainsi de suite. Alors, ce groupe qui a subi toutes ces conséquences néfastes, pour obtenir réparation et laver l'humiliation, s'organise à son tour, s'organise et fait usage de la force pour se venger. Et ainsi, on se retrouve dans le cycle de violence où la victime devient bourreau, et puis le bourreau devient la victime, et ainsi de suite. Et on peut continuer à l'infini dans ce cycle de violence. Donc, je crois qu'il y a deux leçons à tirer, c'est que la violence n'engendre pas de solution. La violence engendre la violence. Et pour mettre fin à la violence, il faut la remplacer par le dialogue.
Alors quelqu'un qui est déjà frustré, qui, disons, pour manifester son mécontentement, et il se livre à la violence, est-ce que ça vaut la peine qu'on puisse réprimer cette violence par une autre violence?
Non, c'est ce que je dis. Dans tous les cas, quand vous faites usage de la violence, elle va nécessairement entraîner des dégâts, des humiliations, des frustrations. Alors, la personne qui est frustrée, qui estime qu'elle a perdu, ou le groupe qui estime qu'il a été lésé par cette violence, à son tour, il s'organise. Il cherchera à déclencher les hostilités pour obtenir réparation et pour laver l'humiliation. Donc, la violence provoque un cycle de violence. Et pour mettre fin à ce cycle de violence, il faut la remplacer nécessairement par la discussion, par l'échange, par le dialogue, par des forums, ou par la parole.
Alors pourquoi, professeur, cet usage de la force ne parvient-il pas à ramener une véritable paix entre le groupe?
Bon, c'est simplement, l'usage de la force provoque plusieurs choses, des dégâts matériels qui sont souvent considérables, des pertes de vies humaines, ou des blessures physiques et même des traumatismes dont nous avons souvent parlé dans le cadre de cette émission. Et le groupe qui a subi toutes ces conséquences néfastes et déplorables et que l'on croit maté par la force cherchera par tous les moyens à reprendre les hostilités pour se venger, pour se faire justice. Voilà pourquoi l'usage de la force ne ramène pas une véritable paix entre les groupes.
Mais voilà, alors on va poursuivre notre entretien. Dans la résolution des conflits au Congo, certaines personnes disent que le recours au dialogue est un signe de faiblesse. Est-ce que vous partagez ce point de vue, professeur?
Non, je ne le partage pas du tout. Évidemment, le dialogue apparaît à beaucoup de gens comme un signe de faiblesse, c'est parce qu'on n'a pas réussi à vaincre l'adversaire, alors on cherche à négocier, ainsi de suite. Non. Le dialogue n'est pas un signe de faiblesse. Je considère que le dialogue c'est plutôt la solution la plus efficace et la plus courageuse, pour trois raisons. La première, c'est que le dialogue permet de découvrir les causes des frustrations des uns et des autres et de construire une solution durable par la coopération entre les groupes. Donc, tant
que on n'est pas remonté jusqu'aux origines de la violence, vous ne pouvez pas résoudre le problème. Et l'avantage du dialogue, c'est qu'il permet de remonter aux causes de frustration et dans une idée de solution durable. La deuxième raison tient au fait que une solution qui résulte du dialogue permet d'éviter la violence et les conséquences, les néfastes dont nous avons parlé tout à l'heure, les dégâts matériels, ainsi de suite. Et la troisième raison, c'est qu'une solution qui est issue du dialogue n'a ni vainqueur, ni vaincu, et donc personne ne cherchera à se venger par après.
Oui, mais le dialogue, c'est une bonne chose, mais si jamais les leaders d'un groupe ne partagent pas, cet avis du dialogue, ça ne pourrait pas donner les résultats escomptés, surtout quand les adeptes n'ont que qu'une seule chose, c'est-à-dire rester fidèle aux leaders. Je crois que là, il y a quand même un blocage qui va se dessiner.
Oui, il peut y avoir un blocage momentané, mais il faut les inviter au dialogue. Je crois que ce qui fait défaut dans notre société, c'est l'absence d'une culture de dialogue. Il n'y a pas de culture de dialogue. Chacun estime que l'usage de la force, c'est la solution la plus efficace, c'est la plus rapide. Or, ce faux. C'est le but justement des émissions que vous organisez, c'est de faire comprendre aux différents leaders, qu'ils soient des d'État, qu'ils soient au gouvernement, qu'ils soient dans les partis politiques. Il faut que les gens apprennent à savoir qu'il n'y a pas de solution par la violence, surtout quand il s'agit des conflits entre les groupes, et que nous devons cultiver chez nous, dans nos groupes, cette culture de dialogue qui permet d'avancer par des processus de compromis des uns et des autres afin d'en sortir des solutions qui sont inclusives, des solutions qui sont mutuellement bénéfiques pour tous les groupes.
Et quand la justice s'en mêle, est-ce qu'il y a toujours des résultats à escompter?
Oui, absolument. La justice est indispensable. La justice doit faire son travail. Après le conflit des groupes, quand il y a un conflit, il y a toujours des victimes. Il y a des gens traumatisés. Il y a des gens qui ont été lésés. Même s'il y a des négociations pour mettre fin, si vous voulez, à la violence, il faut que la justice fasse son travail. Parce que dans tous les cas, la personne qui a été lésée risque de se croire coupable. Il y a l'auto-disculpation. Mais quand la justice a fait son travail, a indiqué clairement qui est responsable des dégâts et éventuellement a fait payer les dégâts aux responsables, en ce moment-là, la solution est durable. La solution, la justice est là pour protéger les individus, pour protéger les biens, pour promouvoir la liberté des individus. Elle doit intervenir là où il y a des conflits de groupe. Le rôle de la justice est indispensable. La justice joue un rôle qui est complémentaire au rôle que doit assumer la négociation.
Il faut que cette justice soit vraiment équitable.
Oui, là, c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat, mais j'estime que la justice a un rôle fondamental dans ces pays, dans un pays, et que là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de protection des personnes et des biens.
Est-ce que un groupe qui est déjà voué à une certaine violence peut un jour changer de comportement?
Oui, mais il faut faire attention avec ce genre d'affirmation, c'est de considérer qu'il y a des groupes qui sont naturellement voués à la violence. Moi, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il y a des groupes voués à la violence, il y a d'autres qui sont voués à la paix. Non, les causes des violences sont connues, ce sont des conflits d'intérêts, ce sont des conflits politiques, ce sont des conflits de terre, ainsi de suite. Et donc, il faut les analyser parce que la violence s'organise, s'articule toujours sur ce genre de problèmes. Donc, il n'existe pas un groupe quelque part qui est né naturellement violent et puis un autre groupe qui est né avec une tendance vers la paix. La violence naît à l'occasion d'un conflit des terres, d'un conflit des privilèges, ainsi de suite. Et donc, je considère que tous les groupes sont égaux par rapport à ce genre de problème. et que il faut éviter le discours de diabolisation, le risque de faire croire qu'il y a des groupes qui sont naturellement violents et que d'autres qui ne le sont pas.
Donc aussi, je comprends bien, professeur, tout conflit peut être résolu par le dialogue.
J'estime que tous les conflits peuvent et doivent être résolus par le dialogue. Il faut éviter, si vous voulez, l'usage de la force. Il faut promouvoir une culture de dialogue, une culture de paix, et n'importe quel groupe, que ce soit au Bas-Congo, que ce soit à l'est du pays, tous ces groupes peuvent se rencontrer et doivent se rencontrer pour trouver des solutions à leurs problèmes. Il n'y a pas un groupe qui est naturellement violent, qui est plus violent qu'un autre. La violence est née à l'occasion de ce genre de conflits, mais il faut essayer de résoudre ce genre de problèmes par la négociation.
Et quelle est votre attitude par rapport à une allégation qui dit qu'un arbre qui est déjà déformé, c'est difficile de le redresser? Donc on peut dire un adulte qui a déjà un comportement violent, c'est difficile qu'il cultive encore la paix, disons, dans son comportement. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, je ne partage pas cette perception statique de l'être humain. Il ne faut pas confondre l'être humain avec un arbre. Un être humain, c'est quelqu'un qui apprend chaque jour, qui se transforme chaque jour. Et c'est l'être humain peut être redressé, il peut être éduqué, il peut avoir une culture qu'il n'avait pas au départ, et ainsi de suite. Donc, à tout moment de la vie, l'être humain apprend, il se développe, et donc je ne suis pas d'accord avec cette perception qui risque de faire croire qu'il y a des gens qui sont orientés vers la violence et qu'on ne peut pas les redresser, on ne peut pas les remettre sur le droit chemin. Donc, grâce à l'éducation, grâce à la formation, grâce à la communication, on peut redresser tout être humain.
Alors, on va suivre la conclusion que va nous proposer Marcel Tancou, et puis on revient à vous, professeur, pour conclure.
Lorsqu'un conflit survient dans une région donnée, un groupe peut user de la force pour contraindre un autre à se soumettre à son ordre établi. Cet usage de la force laisse toujours derrière lui des casses et des conséquences déplorables. Le groupe qui se sent violenté cherche à effacer l'humiliation qu'il a subie en usant aussi de la force. C'est aussi l'occasion de se venger. Nous devrions comprendre que cet usage de la force ne peut jamais nous ramener une paix durable. La force peut anéantir les membres d'un groupe, mais en laissant derrière elle des blessures émotionnelles occasionnées par la perte en vie humaine, des blessures physiques ainsi que des ressources matérielles. Le groupe qui a été maté développe un sentiment d'être sujet de l'humiliation, de perte de l'honneur au sein de la société et tient à tout prix à reprendre des hostilités pour se venger ou recouvrer l'honneur. Pour y arriver, ce groupe va aussi utiliser la force. C'est la situation que nous observons au Bas-Congo avec le bon du Dia-Congo. Certaines gens pensent que le recours au dialogue pour régler un conflit est un signe de faiblesse. Mais nous disons, loin de là, cette considération. Le dialogue permet de savoir ce qui est à la base de mécontentement de l'un et de l'autre, afin d'y chercher une solution à l'amiable. Par le dialogue, toutes les parties ont la possibilité de dire exactement ce qu'il y a au fond de leur cœur. Une solution issue d'un dialogue épargne les groupes à se livrer à de nouvelles violences, à épargner des vies humaines et des ressources matérielles. Ici, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, et donc personne ne pourrait chercher à se venger. Si nous pouvons apprendre à trouver des solutions à nos problèmes sans recourir à la violence, nous pouvons avoir la chance d'avoir une société stable économiquement et socialement.
Ça c'est Marcel Tancou, pardon, qui venait là de conclure avec ce reportage que nous avons suivi, qui nous a d'ailleurs été proposé par Dany Kindanvita. Professeur, je reviens à vous. Finalement, comment devons-nous faire face à un conflit?
Je pense que face à un conflit, nous devons développer trois réflexes, trois activités. La première activité, on en a parlé dans le reportage que vous avez diffusé tout au début de l'émission, parce que j'ai écouté toutes les personnes qui sont intervenues. Ils ont mis l'accent sur la négociation, sur la palabre, sur la rencontre. Et il y en a un qui a dit, oui, mais ici au Bas-Congo, nous parlons la même langue, il n'y a pas de raison pour que l'on ne se rencontre pas, pour que l'on n'échange pas. Et même si on ne parle pas la même langue, il faut toujours promouvoir le dialogue. C'est le premier effet. Donc, nous devons développer la culture du dialogue. Et quand il y a un conflit, il faut vite, comme il a dit, organiser des rencontres, des forums, pour comprendre les origines de la violence et mettre en place des solutions qui sont bénéfiques pour tout le monde. Le deuxième réflexe, c'est qu'il faut humaniser l'autre, parce que ici, nous avons pris l'habitude de diaboliser. Si vous faites une analyse de contenu sur ce qu'on dit, par exemple, de ce groupe, Goludia Congo, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit essentiellement des discours de diabolisation. Donc, le deuxième réflexe, c'est qu'il faut humaniser, valoriser les membres de tout le groupe, parce que la diabolisation, ça pousse les gens à s'enfoncer dans des erreurs. Donc, il faut humaniser tout le monde. Et là, les mass médias ont un rôle extrêmement important. Il faut faire très attention au discours des idéologues, des acteurs politiques, parce que la plupart des discours de diabolisation viennent de ce côté-là. Donc, les journalistes, les professionnels des médias doivent chaque fois essayer de rectifier le tir et éviter de se faire le relais de ce genre de discours de diabolisation. Et là, le troisième réflexe qu'il faut développer, c'est que il faut mettre en place des visions, un idéal inclusif dans la société, un idéal inclusif, une vision inclusive qui peut éliminer les idéologies négatives, les idéologies de discrimination dans la société. Mais à côté de ces visions inclusives et constructives, il faut qu'il y ait des projets concrets, des projets qui favorisent la participation des membres de tous les groupes. Parce que dans les projets, les membres des différents groupes vont apprendre à coopérer, à mieux se connaître et à vivre ensemble.
Alors, une question qui me vient en tête, c'est juste une question de curiosité. Qui doit initier ce genre de rencontres ou, disons, une table ronde, si on peut l'appeler ainsi, parce que ailleurs on organise des bars à zas pour qu'on peut considérer comme des larmes à palabres. Dans les cas d'espèce, qui est censé initier ce genre de rencontres où on est en face de deux groupes en conflit, et qui doit faire le premier pas?
Bon, il y a une multiplicité d'initiateurs possibles, c'est-à-dire les pouvoirs publics. C'est le rôle. Les pouvoirs publics sont là. Vous avez les chefs des confessions religieuses sont là. Les responsables des organisations de la société civile, des sites. Et vous avez les notables de nos villages et de nos communautés. Donc, les initiatives, elles peuvent être prises vraiment à tous les niveaux. Et l'essentiel, c'est que ces initiatives soient complémentaires et qu'à un certain moment, tout le monde se retrouve autour de la table des discussions.
Mais qu'est-ce que vous pouvez constituer un obstacle par rapport à ces genres d'initiatives?
Bon, c'est l'extrémisme. C'est l'extrémisme qui peut constituer vraiment un obstacle, c'est la volonté de vouloir gagner sur tous les plans, c'est une vision exclusive qui consiste à dire nous sommes dans le blanc, et les autres sont dans le noir,
nous avons raison,
les autres ont totalement tort. C'est ce genre d'extrémisme qui peut constituer vraiment un obstacle à la négociation.
Professeur Okomba, nous rappelons que vous êtes docteur en communication, professeur à l'IFASIC. Vous intervenez sur les ondes de Radio Capi dans le cadre de notre chronique La Benevolentia. Merci d'avoir été de nôtre et à la prochaine.
Merci également.